est présenté comme un petit jeu bonus et qui au final, si vous l'avez essayé, est en train de devenir pas loin d'un stand-alone, un jeu qui pourrait tenir sur une cartouche tout seul et créer assez d'intérêt pour refaire une campagne Kickstarter. Du coup, comment c'est venu ce prototype Saber Surfer et pourquoi c'est devenu ce jeu avec un gameplay de plus en plus fouillé, voilà.
Alors à la base, c'était, on voulait avoir un bonus minigame pour la cartouche, pour que les gens aient quand même quelque chose de nouveau quand ils achètent la cartouche. Et on s'attendait pas à ce que ça prenne autant d'ampleur, comme d'habitude, dans le développement. Et donc, en fait, on s'était dit, on va faire un boss rush parce qu'on en a pas fait, et voir à quoi ça ressemble. Et progressivement, on avait au début pensé au principe de prendre la manette comme une planche de surf. Quand on voit les enfants qui jouent des fois à des jeux de course et des choses comme ça, ils tournent les manettes instinctivement, voilà, alors que ça ne fait rien. Et là, on s'est dit, que se passe-t-il si on n'utilise que des boutons, les boutons aux extrémités? Donc le gameplay au début était très expérimental. Nous, ça nous avait plu pour essayer de, dans la programmation, de dire on se limite qu'à deux boutons. Mais très vite, dès les premiers tests, on s'est rendu compte que c'était injouable pour les gens qui n'avaient pas suivi le développement, en fait. Donc, on s'est rabattu sur un gameplay beaucoup plus adapté au contrôleur avec le D-pad pour la croix directionnelle pour le mouvement et les boutons d'action vraiment pour activer la remontée ou les gadgets qu'on a. Bref. Et donc, progressivement, on a fait des vagues de boss avec un Nemesis qui revient un rival, on va dire, qui revient à chaque fin de vague et qui est toujours le même et qui devient de plus en plus fort. Et en fait, le projet, c'était d'avoir des boss qui attaquent suivant la musique. Et donc, en fait, dans les premières vagues, on n'a que quelques chaînes de musique. On n'a pas l'ensemble de la mélodie. Et progressivement, plus on va dans les vagues, plus la musique devient complète. Et l'ennemi aussi débloque les attaques. Et donc, c'est à nous, en tant que joueurs, de trouver les items, de les combiner, de voir comment ça change le gameplay pour essayer de passer à travers les vagues d'ennemis jusqu'à atteindre le boss final. Donc voilà, donc c'était ça. Et ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'on a implémenté pas mal d'items qui changent le gameplay. On a plus de 30 items, mais aussi des malédictions. C'est-à-dire que quand on finit une boucle de jeu, il y a 3 boucles. Il y a 42 combats avec les boss, séparés en 13 vagues et en 3 loops. Et à chaque fin de loop, on a le choix d'avoir une malédiction. On peut reroll la malédiction si elle nous plaît pas, mais qu'un seul reroll. Donc des fois, ça change complètement la façon de jouer. On doit revoir complètement la façon de prendre des risques ou pas dans les combats. Donc voilà, et puis à chaque fois qu'on rajoutait quelque chose, on devait rééquilibrer tout. Et là, on est encore sur de l'équilibrage, de la difficulté, etc. Donc ça a pris beaucoup d'ampleur. Mais on voulait pas livrer quelque chose de à moitié fini. On voulait pas livrer un petit échantillon parce que ça n'allait pas montrer ce qu'on voulait vraiment, la vision finale du projet. Donc on s'est dit, on bosse à fond. Et on livre tout avec le jeu, même s'il devient grand, ça sera cadeau dans la cartouche.
Techniquement, donc du coup, c'est une question que j'ai posée à Julius. Techniquement, donc, quels étaient les défis de ce nouveau titre NES, que ce soit dans l'affichage des boss, est-ce qu'il y a une technique un peu spéciale que vous avez jamais expérimentée, et quels étaient pour toi donc les défis techniques par rapport à votre concept de base? What is the technical challenge on this new on this new NES title, becoming more and more important day after day? What is the technical challenge for you? Do you use new techniques of programmation, maybe to display some bigger sprites, bigger character on screen? And what is for you the main technical challenge you have to face to program Saber Surfer? And maybe, did you ask some help to Matisse? Maybe no? Oh, it was okay. Okay. If you can explain the technical challenge for you and what the technique you use to display some bigger sprite on NES and animation and everything.
So,
I think the backbone of this project is an extensive like math vector functions. Like on NES, it is very difficult or slow to do divisions and to do trigonometry. So you have to use lookup tables, and there's always a trade-off to be made about size and speed. So yeah, I was so happy when it was finally working, and you see a lot of circular movement, all this stuff. You see when a boss dies, maybe you will see it in the video, it will turn into little, we call them morph balls, and those will fly in the shape of the new boss, so everything is moving. That was my challenge for this project, actually, to never turn rendering off, but to do everything live and everything adaptive, to never have the player wait. It is the main challenge. And the the result is pretty much a crazy project. There are so many moving parts. Now we have to balance, and it is a very daunting task. Yeah, it's a lot of work, more than I expected.
Alors la colonne vertébrale du projet, en fait, c'est effectivement beaucoup de vecteurs, beaucoup de trigonométrie. Bon, la NES n'est pas très bonne là-dedans. Finalement, il était assez content quand il a vu que tout ça commençait à bien bouger. Il y a notamment sur les boss, j'ai pas compris, Nicolas, peut-être que tu pourras préciser. Quand les boss meurent, il y a un effet morph ball, c'est ça?
Alors c'est ça, c'est que quand on bat un boss, il y a des boules, des sprites qui le composent et qui se redéplacent et qui tourbillonnent.
Et qui composent le nouveau boss.
Pour se repositionner dans un autre endroit où il y aura le nouveau boss qui apparaît. Ouais. Ça reprend la forme du nouveau boss, etc. Et donc, pour qu'il y ait toujours quelque chose de dynamique sur l'écran. Et voilà.
Et donc, du coup, effectivement, il a utilisé beaucoup de tableaux en programmation, des sous-tableaux pour effectuer tous ses calculs. Et effectivement, il était content quand il a vu que tout s'est mis à bouger correctement à l'écran. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses qui s'affichent, il y a beaucoup de choses qui bougent en même temps. Ça n'a pas été un challenge facile, mais il a surmonté tout ça. Voilà. Du coup, alors, la question qu'on... Antoine, tu veux peut-être rajouter quelque chose sur la partie visuelle, graphique, gameplay, sur ce jeu-là, des choses justement où, au début, tu voulais que ce soit un jeu bonus, finalement, donc ça devient un jeu de plus en plus complet. On peut y jouer d'ailleurs jusqu'à combien de joueurs?
Jusqu'à 4.
Jusqu'à 4 joueurs.
Jusqu'à 4. Et dès le début, on a voulu faire un... Je voulais diriger une partie graphique vraiment marquée, c'est-à-dire d'avoir entre la NES et l'Atari, mais avec une touche moderne quand même. Et donc, et d'avoir des boss vraiment. Le boss, c'est le background, c'est le fond, en fait, des cubes de fond. Toutes les boulettes, tout ça, c'est du sprite. Et donc, vraiment, au lieu de mettre un pixel, un pixel fait 4 pixels, en fait. Et donc, il fallait tout composer comme ça, en laissant aussi, ne jamais mettre deux couleurs sur la même tuile, en fait. Pour au niveau aussi de l'optimisation. Et donc, on a créé des boss qui sont comme ça avec des zones, des weak spots, dans lesquels ça peut générer plus d'argent et etc. Donc, à viser. Et donc, c'était un challenge assez intéressant parce que c'était limité dans la forme, dans le style, et tout en gardant un aspect dynamique et pas trop austère. Donc, et avec une petite touche d'humour par moment dans les primes, etc.
Oui, puis si on n'a pas dit le mot, mais ça, c'est inspiré de Roguelite, parce que vous avez les combats de boss, et après derrière vous avez des boutiques, vous pouvez upgrader un peu vos personnages, vos attaques, booster notamment le dash, et il y a l'histoire de la boule de bowling aussi.
Oui, on a plusieurs gadgets, en fait, il y a des items avec à la fin de chaque vague d'ennemis, il y a un shop, et il vous propose toujours deux items, donc ça peut être lié par rapport à la vie, à l'argent ou à des gadgets qui peuvent influencer le gameplay. Donc activer des nouvelles attaques comme la boule de bowling, il faut tomber sur la tête des ennemis. Et plus on tombe de haut, plus ça fait des dégâts. Et donc voilà, ce qu'il faut éviter dans ce jeu-là, c'est surtout de tomber au fond, en bas de l'écran, qui est une mort instantanée. Donc il faut vraiment doser ces attaques pour éviter de chuter. Donc voilà, donc il y a une espèce de drill de perceuse, une attaque en perceuse, une attaque où on peut faire des tirs, et on peut aussi combiner des items. Il y a des items qui se combinent entre eux et qui font beaucoup plus d'attaques. Et donc, on peut venir à bout des ennemis beaucoup plus, aussi renvoyer les boulettes aux ennemis directement pour que ça fasse des damage. Donc vraiment, on a essayé de créer une variété d'attaques et de défenses qui soient complémentaires et équilibrées. Mais on ne peut pas vraiment tout avoir, ou on ne peut pas tout pousser à fond, parce qu'il y a il y a un level up aussi d'items. Donc voilà, c'est à chaque run, on aura toujours un nouveau ennemi différent, des nouveaux ennemis qui est la manière dont ils s'agencent, et les items et les shopkeepers, enfin les chefs de boutique, les boutiques sont différents. Mm-hmm. Et donc voilà, on voulait vraiment quelque chose de random, qui permette que chaque run soit différent. Et ça donne envie à chaque fois de rejouer, de tester, de voir si on arrive à pas de jeu.
Est-ce qu'on peut dire que votre marque de fabrique, je vais aussi traduire la question en anglais pour Julius, c'est des petits personnages et des jeux vélos, des jeux dynamiques qui répondent bien. Bon, Micromage, c'est la marque de fabrique, ça va très très vite. Encore une fois, les personnages, c'est vraiment tout petit. Là, on a encore une fois des personnages tout petits, mais un jeu vélos, dynamique, ça bouge très bien à l'écran. Space Ghouls aussi, hein, les personnages sont assez petits, encore une fois, il y a un certain dynamisme. Est-ce que c'est parce que Julius, il voulait plus travailler sur des jeux avec des gros sprites? Et est-ce qu'un jour vous allez refaire un jeu avec des gros sprites comme ce qu'avait fait Julius sur Super Bad Puncher? The question is your trademark small characters to have more dynamic games, more velocity in the games and control very fast? Is it something that that is your trademark at Morphcart? And did you imagine a game like Super Bad Puncher with biggest character, more adventure, or you will stay in the type of game, very very rapid game, very fast games with smaller characters?
So honestly, I will always do what makes sense, given the design. For multiplayer games, I feel smaller sprite, especially four-player game, smaller sprite just gives you so much more screen space to work with. So it makes a lot of sense there. I'm not opposed to big sprites. Honestly, it's a hot take, but I think they're sort of overrated. No, I don't know. When I start out, I never know what anything will be like. It just ends up like.
Alors, c'est pas forcément une marque de fabrique de Morphcart. Pour le coup, ce qu'il disait, c'est qu'il, lui, il choisit toujours la meilleure solution par rapport au gameplay. Et effectivement, par rapport au côté multijoueur de beaucoup de jeux de chez Morphcart, il y a un côté pratique parce que le fait d'avoir des petits personnages, ça permet d'avoir sur des résolutions comme ça. C'est moi qui le rajoute, une meilleure lisibilité quand vous faites des jeux multijoueurs. Il n'est pas opposé à faire des jeux avec des gros personnages. Après, c'est une question un peu, c'est une question pourquoi pas qui peut provoquer le débat. Mais il n'est pas opposé à faire des jeux avec des gros caractères. Encore une fois, il va toujours choisir la solution la plus évidente par rapport au gameplay. Et toi, du coup, Nicolas, c'est une marque de fabrique, ces petits personnages.
Alors non, j'aime bien travailler justement avec la limitation en général, mais quand je vois Space Girl qui est du 16x16, je crois que Bad Puncher, Captain Rose, c'était aussi du 16x16. Donc au final, on a fait plus de jeux avec des gros sprites, avec Bubble qui fait 16x16, Space Girl 16x16, Bad Puncher que Yves avait fait, c'était aussi du 16x16. Et en fait, il y a eu Micromage et Cyber Surfer qui sont petits. Donc voilà, en fait, majoritairement, on a fait plus du 16x16.
C'est du combien ? 4x4 8x8
8x8 pour Micromage. Et pour celui-là, ça doit être du 10x10 peut-être. D'accord. Parce qu'il y a la board, le surf en dessous, qui ajoute 2 pixels. Mais ouais, ça reste du petit format. Mais c'est vrai que ça ajoute beaucoup plus de flexibilité pour développer sur NES, parce qu'on n'est pas là à se balader avec des méta sprites partout, etc. Surtout en multijoueur, quoi.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous avez trouvé la bonne recette pour faire des bons jeux NES, parce que pour le coup il n'y a rien à mettre à la poubelle. Est-ce que vous avez trouvé une recette, un savoir-faire? Did you have some kind of a recipe to make good games on NES? Did you understand something that maybe other developers didn't understand about the NES design and NES game design? Is it something for you that is like a know-how? Like you have a recipe that works very good on NES games.
Okay. When you think your game is finished, it's not finished. Like what I've seen is most developers just quit way too early, which is also the nail in the coffin for me right now, I feel. But just put more time into it. Definitely take your game. I mean, this is Micromages would not be Micromages if we didn't take it to events and always watch. Like, it could not be a good game without other people and without fresh eyes constantly playing the game. Like, people underestimate that very much, because when you are deep into development, you cannot see the whole picture anymore. And we see it with this game also. Like, we got so much valuable feedback. We were stuck in the balancing phase. I did not know what I need to do, and we got so much valuable feedback from people playing the game here. So, yeah, don't underestimate that.
Non, c'est pas forcément une recette, mais c'est effectivement de pas trop avoir le nez dans le guidon, en tout cas la tête dans le guidon. J'ai pas compris ce qu'il a dit au début sur le fait de trop attendre et que ça pouvait être le clou du cercueil. Ah, de pas abandonner trop tôt. Ouais, d'accord, effectivement, de travailler le projet et de fignoler le projet, toujours comme ça, avoir, c'est pas forcément une recette, mais du coup, le fait de fignoler le projet, bah, d'avoir un projet qui s'améliore de plus en plus, et tout. Et toi, pour toi, du coup, est-ce que tu penses avoir trouvé une recette en mode, bah, on a trouvé un truc qui marche bien sur NES?
Alors, comme disait Yuyus, il y a les playtests, de faire tester ça à des événements, à recueillir les feedbacks des gens, même si c'est des fois un peu pas ce qu'on attendait, etc. C'est toujours bien de garder, de noter, surtout de noter tous les feedbacks, de voir s'il y a des choses qui reviennent, des trucs récurrents qui reviennent et de retravailler. Parce qu'en fait, on est tous là à douter de ce qu'on fait. On expérimente, on tâtonne. Et personne n'a la science infuse à savoir exactement, ah bah, ce que je fais c'est génial. Non, non. Tout le monde est en train d'expérimenter des trucs, et donc même des gens qui testent pour la première fois le jeu peuvent apporter des idées fraîches, etc., qui peuvent améliorer le projet. Et en général, moi je dirais, il y a une expression, c'est « less is more ». Et des fois, c'est mieux de se focaliser sur un type de mécanique, un gameplay, et une fois d'avoir maîtrisé bien ce gameplay, de donner quelque chose qui soit agréable à jouer, après bah, de tricoter autour, de faire des ajouts, des choses comme ça, et de garder un peu de simplicité. Ça aide aussi à développer, mais aussi pour les joueurs à apprendre la mécanique du jeu, etc. Donc c'est vraiment une approche, on avait vu beaucoup de vidéos sur du game design, même l'approche de Nintendo dans les jeux d'avant, où vraiment ils se concentraient sur des game mécaniques, et ils développaient autour, et c'était ce qui était vraiment apprécié.
Ouais, ça me fait penser aussi au discours de Fumito Ueda, de Shadow of the Colossus et Ico, il appelle ça le game design soustractif. C'est-à-dire qu'en gros, il va avoir plein d'idées, et puis au final, il va retirer au fur et à mesure plein d'idées, et au final, quand on regarde Ico, c'est un jeu très simple, et justement, c'est ce côté très simple qui en fait un jeu assez attirant, en tout cas. Voilà.
Surtout, c'est que quand on commence un projet, souvent, les premiers projets, on a envie de tout mettre dedans. Ah, bah, génial, je veux faire ça, je rajoute ça, mais on alourdit tout, ça devient beaucoup plus brumeux à gérer, et même pour le joueur, à s'y retrouver, à qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit activer, l'apprentissage et tout ça. Donc vraiment aller vers la simplicité, et ensuite développer progressivement jusqu'à atteindre un équilibre qui paraît bien, et après un petit coup de polish, avec du feedback, avec des playtests, jusqu'à obtenir un truc qui est satisfaisant pour la sortie.
Alors, question qui fâche, justement, pour la sortie.
Oui.
Il arrive quand? Parce que, ça me semble que j'ai backé le jeu il y a un certain temps.
Oui, ça va arriver, ça va arriver. on a, bah là, après tous les feedbacks qu'on a eu ce week-end, qui sont vraiment, vraiment précieux. Mm. On a bah, des choses à implémenter, des choses à modifier, à rééquilibrer, etc. Mais voilà, on est sur la fin du projet, là. Vraiment, on est sur la fin. Donc, ça va arriver. Un peu de patience.
D'accord.
On n'annonce pas de date. parce qu'on sait toujours que ça n'arrive jamais comme on a prévu, mais voilà, on est vraiment sur la fin là.
Et Antoine est un publisher conciliant.
Ouais, non, Antoine, il attend patiemment. Il attend et ça viendra.
Alors, on m'a dit à la police que les lettres de menace que vous avez reçues, en fait, c'est lui, il y a ses empreintes.
C'est ça,
tout
c'est
dessus,
ça, on a tout retrouvé là.
Quand est-ce que tu vous sortez votre jeu? Je vais venir à Berlin. Écoute, je vous laisse le dernier mot. Donc
On voulait présenter le.
Ah, bah oui, bien sûr.
Donc, on avait parlé du Micromage Maker.
Ouais.
Qu'on a fait.
Qui regroupe d'ailleurs Micromage et Micromage Second Quest.
Voilà, donc.
Plus plein d'autres trucs.
Voilà, donc on a un level editor. Donc voilà, beaucoup de gens nous demandaient la suite de Micromage. En fait, quand tu nous as contacté, tu nous as montré le level editor, on s'est dit que ce serait un jeu parfait pour Switch, etc. Et on s'est dit, on va travailler ensemble. Et donc là, il a bossé vraiment, mais comme un dingue. Moi, je l'ai aidé pour toute la partie UI/UX et des éléments graphiques un peu partout. On a pensé le processus, la navigation à travers le jeu, etc. Essayer de faire quelque chose d'accessible. Mais aussi un peu complet sans être trop compliqué. Donc c'est vraiment trouver le bon équilibre d'offrir de la liberté pour créer des niveaux tout en évitant d'assommer les gens avec plein d'options possibles. Donc voilà, trouver le juste milieu. Et tu peux en parler. T'as été dedans pas mal de temps.
Est-ce que, en gros, déjà, ça fait 4 ans quand même que le projet existe. Il est passé par beaucoup d'itérations d'UI, beaucoup d'itérations d'éditeurs, etc. On a vraiment, vraiment, vraiment poussé sur le polish de cet éditeur-là. En fait, vraiment, on a fait tester, etc. On a vraiment passé beaucoup de temps sur ce truc-là. Oui, alors sur Steam, tu as évoqué aussi Switch tout à l'heure.
Ouais.
Et
Steam Deck?
Non, Steam Deck, ça va être supporté avec Steam.
Ouais.
Faut que je me penche dessus, mais normalement, ça devrait bien fonctionner avec. Switch 2.
Ah bah oui.
Concrètement, les Joy-Con 2 avec leur fonctionnalité de souris, etc.,
serait
quand même franchement adapté pour utiliser l'éditeur.
Et donc, je parlais un peu avec Julius, et Julius me disait qu'il t'avait filé un coup de main pour créer une ROM plus grande pour pouvoir faire des maps plus grandes avec l'éditeur, et aussi il a rajouté des comportements ennemis en plus, c'est ça?
Alors, à la base, du coup, c'est Julius qui s'occupait d'effectivement modifier la ROM pour que ça fonctionne avec l'éditeur, faire en sorte qu'effectivement ça supporte des maps plus grandes, etc. Il y a juste un moment où, Triple Jump est arrivé, le temps manquait, etc. Et j'ai pris un tout petit peu pour polish du coup les quelques ennemis nouveaux, rajouter des comportements, faire en sorte que les ennemis aient de la gravité, tout ça, ça réagisse à différents éléments du jeu, c'est plus flexible quoi. Ça, faire des tactics, rendre ça plus adapté au maker, etc.
Et est-ce que tu sens que Julius et Nicolas sont un peu les gardiens du temple quand...
Donc on pourra voir comment se débrouillent les gens, et même moi ça m'intéresse de voir ce que les gens vont faire en level design, parce que quand je joue au jeu, je vois ce que j'ai fait et j'ai pas de surprise dans les pièges, donc là je pourrais au moins découvrir des trucs et me casser les dents dessus, et vraiment hâte de voir ce que
va se passer. C'est une des features qui m'a le plus bluffé en fait. Vous avez compris le principe, vous allez générer la ROM, vous faites votre niveau et tout ça, et vous allez générer une ROM qui va vous permettre de jouer sur votre Nintendo, voilà, ça c'est plutôt balèze. Allez, donc je vois la prochaine conférence qui se prépare. Est-ce que vous avez des questions dans le public? On a répondu à la sortie sur le jeu, ça arrive bientôt, là c'est la dernière ligne droite. Est-ce que vous avez des questions dans le public où on passe au dernier mot? Non, c'est bon? Pas de questions? Bon, du coup, un dernier mot à tous les trois. Allez-y, chose que vous voulez dire peut-être sur
merci.
Le jeu.
En tout cas, merci. Merci pour les tests qu'on a déjà eu ce week-end sur notre stand. C'était vraiment agréable et l'ARJC, c'est toujours un plaisir. Et si si vous voulez, vous pouvez toujours wishlist le jeu sur Steam. Ça aide toujours d'avoir de la wishlist. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire, tout ce qu'on va sortir bientôt. Et bah, encore merci.
Yeah, basically what you said, I think. Thanks for the testing. RGC will definitely make it into the credits of our new game. Like, without you, this... Oh, I was so stuck. I thank all of you so much, honestly. Yeah.
Ouais, bah pareil que Nicolas un peu, donc effectivement ils vous remercient de tester le jeu, c'est très important pour eux, et effectivement le fait de tester le jeu ça le fait avancer, donc ils vous remercient énormément de passer sur le stand et d'essayer le jeu. Et enfin Mathis, un dernier mot.
Alors oui, effectivement, merci beaucoup d'avoir pris le temps de tester les jeux du stand, ça c'est super cool. Je voulais aussi prendre juste deux secondes pour vraiment remercier personnellement Morcart, c'est vraiment... Ça a été une opportunité de fou furieux que vous m'avez offert en fait. Et vraiment, ça a mené à un enchaînement de choses. C'est franchement super cool. Thanks a lot. Thanks a bunch. Yeah.